Dimanche 11 février, journée consacrée aux malades, on associe souvent la maladie au côté physiologique. Il existe aussi des maladies psychologiques. Avec nous, Rosine Ricot, psychologue. Quel malade rencontrez-vous ?
Plutôt que malade, je rencontre surtout des maladies ou des comportements maladifs, des comportements de dépendance, donc se tourner vers de nouvelles drogues ou de nouvelles dépendances.
Qu'est-ce qu'on appelle dépendance ?
Actuellement, on ne parle plus seulement de nouvelles drogues, mais ça peut être des dépendances de jeux vidéo, d'internet, de télévision, mais aussi de nouvelles drogues. De nouvelles drogues qui, en fait, c'est la façon de les consommer qui devient maladif, qui devient dépendance.
À partir de quel moment on est malade psychiquement ?
Quand on parle de dépendance, justement, quand on parle que on doit absolument employer ça pour être bien, rejoindre un bien-être, entre guillemets, artificiel.
Qui emploie ces nouvelles drogues ?
Un peu tout le monde, mais moi je me suis surtout concentrée sur les jeunes qui vont de 10 à jusqu'à 30 ans parce que le temps de l'adolescence est très long.
Et pourquoi ces nouvelles drogues ?
L'amusement n'est plus un amusement qui est on sort et on joue au football dans un terrain de jeu où on court ou on joue à la poupée. C'est surtout maintenant une rencontre pour consommer quelque chose. Donc en effet, on rencontre plus souvent les jeunes dans des centres commerciaux. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils se rencontrent là parce que c'est le plaisir de consommer ou d'imaginer de pouvoir consommer. Et l'amusement est malheureusement devenu consommer quelque chose, prendre quelque chose pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir être bien, rire avec les autres, enfin être à l'aise avec les autres. Donc en général, les nouvelles drogues s'associent surtout à une assomption de différents types de drogues. Et dans les drogues, on devrait mettre l'alcool. Dans le nord de l'Italie, il y a des jeunes qui ont essayé de prendre de l'eau de vie, la grappa, déjà à partir de 10 ans. Ils sont très contents d'avoir bu jusqu'au point de s'être tellement relaxés, disons de perdre toute inhibition pour pouvoir dire « alors là, je me suis vraiment amusée parce que j'ai pris ça ».
Quelle est la psychologie de ceux qui boivent ce genre de drogue, de ceux qui utilisent ce genre de drogue ?
Alors, c'est très triste de remarquer que ce sont en général des personnes qui veulent entrer dans la société, qui veulent plaire énormément. Ce n'était plus celui qu'on reconnaissait dans la classe, surtout dans l'adolescence, qui se refusait, qui s'éloignait un petit peu. Mais c'est au contraire celui qui tend à vouloir entrer dans la classe, vouloir plaire. Ce sont des jeunes qui savent très bien parler avec les adultes, qui savent très bien trouver des mots et qui sont des délégués de classe. En fait, le problème des nouvelles drogues, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que c'est un danger. Ils ont l'impression que c'est quelque chose de très propre, de très net. D'abord parce que ce n'est pas justement la seringue qu'on se met, donc il n'y a pas de sang, mais il y a une petite pilule qui est mignonne, qui est très colorée. C'est très intéressant de voir que les noms aussi qu'ils donnent sont superbes pour toutes ces pilules.
Et puis du coup aussi, on reste très intact vis-à-vis du regard des autres.
Oui, mais en plus c'est mignon parce que c'est comme si on mangeait un bonbon, on se passe le petit bonbon.
Comment est-ce qu'ils se reconnaissent malades, ces enfants ?
Ils ne se reconnaissent pas malades parce qu'ils disent qu'ils peuvent très bien contrôler le risque. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent plus l'amusement s'ils n'ont pas pris ça d'abord, associé à l'alcool, associé à autre chose.
Et quel est l'effet du groupe ?
L'effet du groupe est très très grand parce que ça fait bien, ça fait chic de faire partie d'une chose. Et ça peut être aussi des gens très hygiénistes dans un autre sens, qui font très attention à ce qu'ils mangent, justement, et tiennent beaucoup à leur corps. Ce sont ceux qui essayent le plus possible d'être très bien, de faire beaucoup de sport, d'avoir un physique très sexy. Et donc le rappel à la sexualité est très important. Quand on les voit dans les discothèques ou dans les lieux de rencontre, ce sont ceux qui sont le mieux habillés, les plus beaux physiquement, et qui peut-être sont ceux qui, pendant toute la semaine, boivent des litres et litres d'eau parce que ça fait du bien, c'est pur, ça dépure. Et puis après, quand on s'amuse, alors on prend les différentes substances, on s'amuse même à les mélanger.
Quand vous rencontrez ces jeunes, Rosine Ricot, qu'est-ce qu'ils vous racontent ?
Ben, ils sont très contents de pouvoir parler. Ça, c'est une chose qui nous a énormément étonnés. Ils sont très contents de dire qu'ils ont même une grande créativité. C'est-à-dire que, oui, normalement, on peut prendre ecstasy, mais vous savez, on a essayé une nouvelle substance et si on la mélange, ou bien ils s'amusent à prendre des produits de la maison, produits ménagers de la maison qu'on mélange avec d'autres choses. Voilà.
Quel est le malaise de fond que vous ressentez ?
On remarque que ce sont des masques qui se mettent. En fait, c'est-à-dire, c'est je veux plaire, je veux absolument plaire et je dois toujours être bien, toujours très performant. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler seulement des jeunes, c'est un problème de la société. C'est une société qui reconnaît mal les sentiments négatifs.
Qui reconnaît mal aussi la vulnérabilité ?
Oui, ou même le fait de constater que bon, aujourd'hui ça ne va pas et ça ne va pas. Moi, j'entends beaucoup de mes collègues qui disent « Oh mince, aujourd'hui ça ne va pas, j'aimerais prendre quelque chose ». On prend beaucoup plus de médicaments parce qu'on ne peut pas avoir un air fatigué, un air malade.
On n'accepte pas ses limites.
Non, non, non. Et on n'accepte pas de passer pour quelqu'un qui a des limites.
Pourquoi ?
Parce qu'on est la victime. On doit être toujours quelqu'un qui gagne, qui réussit et qui est très individualiste. On ne réussit pas parce que quelqu'un nous a aidés. Oui, on peut demander de l'aide, mais enfin, nous, non. C'est parce qu'on est superbe, on est bien et on plaît et tout le monde nous remarque.
C'est un défi pour vous, Rosine Rico, de s'occuper de ces jeunes parce que vous êtes d'origine vietnamienne, adoptée par une famille française, vivant en Italie. Vous avez connu cet aspect de victime.
Pour ce qui me concerne, c'était la victime mais qui se rachetait, c'est-à-dire qu'elle a eu des défis justement et le fait déjà de réussir à parler le français quand pendant 3 ans j'étais dans un orphelinat et je n'avais pas la présence d'adultes qui me parlaient, donc évidemment mon langage était très très primaire, c'était 2 ou 3 mots et c'est tout. Et ben ça a été un défi d'apprendre le français et d'apprendre l'italien. Donc pour moi, déjà entrer dans la normalité, déjà réussir à vivre bien avec soi-même, c'est déjà quelque chose de très fort. Alors, quand on essaye d'être le meilleur en tout, ça devient beaucoup plus difficile à tenir, surtout pour des jeunes qui sont en train de se construire une identité.
Quelle est votre ligne directrice quand vous voyez des jeunes ?
D'abord de les écouter beaucoup parce que on les critique beaucoup. Bon, moi je viens aussi d'après 68, donc ça a été très intéressant parce que 68 a revendiqué sa jeunesse. Après, il y a eu comme un fait où les mêmes parents qui étaient de 68, qui sont devenus parents maintenant, sont devenus trop amis avec leurs enfants et leur demandent trop de conseils. Moi j'ai eu beaucoup de mes amis, mais aussi de jeunes qui me disent, moi franchement, être responsable de mes parents parce qu'ils ont plusieurs vies, parce qu'ils ont de nouveaux partenaires et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais on les crée déjà des petits adultes. On leur demande d'être déjà des petits adultes, d'être très responsables. Et on le voit dans la culture actuelle. Un parent est très fier parce que l'enfant a dépassé des stades. J'entends de plus en plus de parents qui me disent comment stimuler le plus possible un enfant. Mon enfant est surdoué et qu'ils veulent leur faire voir, lire des choses déjà qui ne sont pas de leur âge. C'est-à-dire on ne les laisse pas être enfants. On ne les laisse pas être adolescents réellement avec leurs problèmes.
On brûle les étapes.
C'est-à-dire que l'image devient très importante.
Si vous faites ce métier, c'est que vous avez réfléchi à ce que vous voudriez être et ce que vous voulez que vos enfants soient. Racontez-nous.
Ben, moi, il faut dire que j'ai choisi ce métier parce que, justement, pour mon expérience et parce que j'ai voulu absolument connaître aussi les enfants qui avaient eu des problèmes, donc les suivre pour mieux me connaître, hein, c'est très égocentrique aussi. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un grand espoir dans les jeunes. Si on leur demandait moins et si on leur laissait le temps de vivre, d'être eux-mêmes, d'être immatures, de ne pas être particulièrement beaux. Quand je regarde les jeunes, je les regarde avec l'espoir. Je me dis, c'est eux qui vont faire la société. C'est tant qu'à faire qu'on les aime plutôt qu'on les critique ou qu'on les idolâtre. Les aimer, ça veut dire, selon moi, accepter leurs faiblesses, accepter leur moment de ne pas être particulièrement intelligent, d'être en retard, par exemple, pour certaines choses.
Un enfant peut être aussi malade à cause d'un groupe qui n'est pas très sain.
Oui,
expliquez-nous.
Quand un groupe refuse absolument, toujours, toujours, constamment une seule personne, ce qui est malsain, c'est d'abord ce qui pousse à refuser. Mais le côté que nous retenons plus malsain, c'est que toute la classe accepte. Et c'est le fameux public qui regarde et qui ou rit, ou appuie, ou fait semblant que ça ne se passe pas.
Finalement, les malades ne sont pas toujours ceux qu'on croit.
Non, la maladie est née de plusieurs choses. Justement du groupe, de l'influence et de la façon de réagir. Et ça peut changer aussi. Donc très souvent, justement, ceux qui étaient les victimes peuvent devenir des tortionnaires à leur tour et vice-versa.
Rosine Rico, quelles sont les valeurs qui vous poussent dans ce métier ?
Alors, tout d'abord, l'espoir. Puis bon, du point de vue catholique, c'était aussi la miséricorde. Donc, miséricorde, pas entendue comme permissivité, mais comme on accepte, on se trompe tous. Et moi-même, j'ai été, justement, pour aider, il faut que tous les patients ou tous les malades que je rencontre soient très miséricordieux avec moi. Parce qu'ils doivent accepter que j'essaye de tâtonner, de comprendre, d'essayer d'écouter. C'est le fait d'écouter, de se poser des questions tout le temps, de s'enrichir à travers le contact avec l'autre.
Et de laisser aussi à l'homme être un mystère.
Bien sûr, parce que justement, ce que la psychologie peut faire, c'est de soulager, de poser de nouvelles questions. Je suis tout à fait contraire, mais c'est très personnel, sur une idée de donner une étiquette, surtout à un enfant qui est en train d'évoluer. Je pense qu'il faut l'aider à se poser des questions, nous poser des questions et se dire toujours, est-ce que j'ai raison de l'aider de cette façon-là ou peut-être je me trompe ?
Vous pouvez nous dire une de vos questions que vous vous posez en ce moment ?
Si la société n'est pas en train un petit peu d'étouffer le côté le plus beau qui est justement l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, en voulant la mettre dans des stéréotypes, dans une image, et ne leur laisse pas le temps de s'exprimer.